La méditation n'est plus réservée à ceux qui la pratiquent. Depuis quelques années, des scientifiques étudient les changements apportés dans le corps et le cerveau par la méditation et des cobayes aussi célèbres que le Dalai Lama ou Mathieu Ricard ont permis aux chercheurs de faire des découvertes importantes au cours de différentes méditations. C'est le dossier de notre Tête au Carré pour comprendre les effets bénéfiques de cette pratique et puis les perspectives ouvertes par les travaux des scientifiques. C'est en partenariat avec le magazine Pour la Science et j'attends vos messages et vos questions, vos témoignages sur la méditation dès maintenant. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, ces personnes qui avouent des crimes qu'elles n'ont pas commis. Des scientifiques viennent de montrer à quel point il est facile de convaincre une personne qu'elle est l'auteur d'un crime. Un phénomène de faux souvenirs que nous allons décortiquer avec mes invités. Vos messages courts dès maintenant sur le compte Twitter de la Tête au Carré. Violaine Ballet est aux commandes de cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Antoine Lutz, Michel Levent-Cuen et Marc De Smet, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Marc De Smet, vous pratiquez la méditation depuis 45 ans et quand vous avez commencé, la méditation intéressait beaucoup plus les hippies que les scientifiques à l'époque.
C'est exact et je peux dire aussi qu'il n'y avait par exemple à Paris que deux cours de yoga pour ne citer que cette méthode-là. Oui. Tandis que maintenant, il y a en France, comme dans toute l'Europe et dans le monde entier, des cours de yoga dans chaque village, pourrait-on dire.
Oui, un vrai succès.
Alors c'est je crois que c'est un besoin populaire, un besoin de la société, trop stressée, et qui se sert de ces techniques venues d'Orient, qui intéressaient tellement les hippies à l'époque, puisque c'était l'époque de la route vers l'Inde.
Oui.
Et je trouve qu'on prend quelque chose du patrimoine culturel de l'humanité qui est hyper important.
Voilà, et les choses ont bien changé, on en parlera évidemment avec vous. Antoine Lutz, le moine Mathieu Ricard a été l'un de vos cobayes volontaires. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier dans son cerveau en méditation?
Oui, ça fait environ une dizaine d'années que Mathieu Ricard se prête à l'exercice d'être notre cobaye favori.
Ouais.
Et ça, on a notamment pu trouver de nombreux effets sur le fonctionnement du cerveau pendant des états de compassion, des états de concentration, d'états dits de pleine conscience. Et pour moi, un de mes souvenirs les plus marquants, c'était de voir l'activité de l'électroencéphalogramme, l'activité électrique à la surface du cerveau, pendant que Mathieu méditait sur la compassion dite non référentielle. C'est un état de compassion très très fort.
Et ça ressemble à quoi alors cette courbe?
Et justement, là on a vu, c'est des rythmes dans des oscillations dites gamma, des rythmes, des oscillations rapides, qui sont importantes quand le cerveau se met en synchronisation, en cohérence.
Mm-hmm.
Et c'était pour nous un événement assez fort, parce que c'était vraiment inhabituel de voir des oscillations avec une telle amplitude pendant un état cognitif.
On en reparlera là aussi avec vous, Michel Levent-Cuen. Est-ce que la méditation pourrait devenir une nouvelle médecine aujourd'hui, parce qu'on va parler de ses bienfaits dans un instant ensemble?
Oui, donc je pense que ça correspond en fait au développement d'une, ce qu'on pourrait appeler une médecine complémentaire, en fait, une médecine intégrative. Donc la médecine en fait moderne, conventionnelle, en fait, connaît très très bien les mécanismes biologiques et propose surtout en fait des technologies, donc une molécule ou une intervention chirurgicale.
Et, oui.
Et il y a une énorme, bien sûr, efficacité de cette stratégie, mais dans certains cas, en fait, ça ne marche pas. Il y a des effets aussi secondaires extrêmement négatifs qui sont bien connus. Donc les thérapies, en fait, qu'on pourrait appeler complémentaires, en fait, proposent en fait une autre approche des patients, de la maladie, et prennent justement le patient dans sa subjectivité, dans sa globalité, et permet en fait de trouver au patient en fait ses propres ressources pour certaines guérisons ou certaines améliorations de l'état.
Oui, et donc ça fait son entrée petit à petit aussi au sein de l'hôpital. Voilà, beaucoup de choses à se dire dans quelques minutes avec les messages des auditeurs pour ce dossier sur la méditation. À la une de la science aujourd'hui, des innocents convaincus d'être coupables. Une expérience troublante menée par deux psychologues canadiens et anglais vient de montrer qu'il est très facile de manipuler les souvenirs de quelqu'un. Ils ont réussi à convaincre 70% de leurs étudiants cobayes qu'ils avaient commis des actes criminels imaginaires dans leur enfance. André Didier-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université de Franche-Comté. Et puis par téléphone avec nous, Sébastien Boller. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Voilà, une étude à la fois sérieuse et intrigante, amusante, publiée par le Psychological Journal. Comment d'abord, André Didier-Jean, ont fait ces chercheurs pour créer de fameux faux souvenirs chez leurs cobayes?
Alors, en fait, ils ont eu recours à un type d'expérience qui est assez pratiqué dans le domaine sur les faux souvenirs, qui se déroule en plusieurs phases. Dans un premier temps, ils ont passé, dans le cadre de leur université, une annonce pour recruter des étudiants qui acceptaient de venir passer une expérience sur la mémoire. Et puis, ces étudiants acceptaient qu'on contacte auparavant leurs parents pour donner des anecdotes de choses qui leur étaient arrivées enfant. Alors, le jour de l'expérience proprement dit, les étudiants viennent individuellement au laboratoire. Et puis, les expérimentateurs leur expliquent que, voilà, c'est une expérience sur la mémoire. On va leur raconter des choses qui leur sont arrivées enfant, que leurs parents ont rapportées. Et puis, soit ils se rappellent de ces événements, et ce qu'on va leur demander, c'est de fournir des détails sur ces événements. Soit ils ne s'en rappellent pas ou pas bien. Et alors, justement, on va leur demander de faire un effort sur eux-mêmes pour essayer de faire remonter ces souvenirs. On leur dit, voilà, c'est une expérience sur la mémoire. Et l'objectif, c'est, à force d'efforts, de voir si on peut faire remonter des souvenirs de choses qu'on a vécues et peut-être oubliées. Et puis, les chercheurs en psychologie, dans ce type d'expérience, sont parfois un peu pervers, parce qu'au milieu des vraies anecdotes racontées par les parents, eh bien, ils vont glisser de fausses anecdotes. Et dans le cas de cette étude dont nous parlons, ils vont leur raconter que les parents, pour un certain nombre d'entre eux, ont rapporté une fois où ils avaient été interpellés par la police pour une agression, et pour certains d'entre eux, même une agression armée.
Ce qui n'était pas vrai, en l'occurrence, totalement inventé par les scientifiques pour cette expérience. Ouais. Donc ils sont vus plusieurs fois, ça dure sur plusieurs semaines.
Voilà, donc ils viennent trois fois au laboratoire.
Ouais. Et alors, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe?
Et puis, ce qu'ils observent, c'est qu'autant la première fois, évidemment, ils n'ont pas de souvenirs d'événements qu'ils n'ont pas vécu, mais à la troisième fois, 70%, comme vous l'évoquiez, d'entre eux, eh bien, se rappellent avec de nombreux détails donc de leur interpellation. Ils peuvent décrire comment était le policier, comment le policier était habillé, etc.
Ouais, c'est inouï, non, quand même. 70%.
Le pourcentage est assez fort. Ouais. Le résultat dans l'absolu est assez classique. Ce genre de choses avait été montré avec plein de choses amusantes. On arrive avec ce genre de paradigme, à ce genre de méthode, à ce que les gens se souviennent, par exemple, avoir pris enfant un thé avec le prince Charles ou avoir été sauvé par un sauveteur en mer. Mais voilà, mais ce qui est intéressant dans cette étude qui vient de paraître, c'est qu'elle l'applique vraiment aux aveux criminels.
Ouais. Sébastien Boller, on voit dans cette étude qu'il y a des clés bien précises pour faire naître de faux souvenirs précisément chez quelqu'un. Ça ressemble beaucoup à de la manipulation mentale quand même, non?
Ah, totalement. Moi, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est que les techniques qui sont mises en place... Alors d'ailleurs... Elles sont mises en place par un des membres de l'équipe, qui est mentionné à un certain moment, qui est très très familier des techniques d'interrogatoire en milieu judiciaire. Hein.
Oui.
Et donc parmi ces techniques, il y a le fait de faire légèrement pression, par exemple, sur l'étudiant, de lui dire, vous savez, la plupart des gens finissent par retrouver ces souvenirs, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, donc c'est très léger dans le cadre de l'expérience. Et puis ensuite, on amène la personne à imaginer comment ça a bien pu se passer. Donc d'abord un travail purement hypothétique. Et puis à force d'imaginer, alors on leur demande de faire ça la nuit par exemple, quand ils sont tranquilles, allongés dans leur lit, à force d'imaginer comment ça a bien pu se passer, ben, ils se font une représentation de la scène, et ce qui est imaginaire devient, alors là c'est un peu l'alchimie du cerveau, devient quelque chose de l'ordre du souvenir. Alors c'est l'idée selon laquelle, voilà, il n'y a pas forcément de frontière toujours bien nette entre ce qu'on imagine s'être passé et ce dont on se rappelle réellement.
Alors évidemment, dans des cas particuliers, effectivement, comme les scènes de crime, ce sont des situations extrêmement problématiques. Les interrogatoires de police sont souvent des moments justement où il y a une pression extrêmement importante. On écoute Patrick Dils, condamné à perpétuité en 86 après avoir avoué le meurtre de deux garçons et finalement donc libéré de prison 15 ans plus tard. Il s'exprimait l'année dernière sur ces fameuses pressions policières.
Lorsque j'ai été arrêté le 28 avril 1987, ça faisait des heures que je disais la vérité.
Ouais.
Et lorsque l'on entend un inspecteur dire à sa propre mère, il ne sera tranquille qu'à partir du moment où il dira la vérité.
Ouais.
Y a une réaction qui se fait. Hein. Il n'y avait qu'une sortie, il n'y en avait pas 36. Et tant qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il souhaitait obtenir, je n'aurais pas été tranquille.
André Didier-Jean, alors ça c'est un exemple évidemment extrêmement connu. Comment on arrive à basculer justement de l'autre côté et à avouer des choses qu'on n'a pas commises?
Bon, avouer des choses qu'on n'a pas commises, c'est une chose qui est particulièrement intéressante. C'est qu'en plus, même par exemple dans cette expérience, à l'issue de l'expérience, les gens gardent le souvenir finalement.
Oui.
C'est-à-dire que notre mémoire va pouvoir créer une trace de quelque chose qui n'est pas arrivé, qui devient véritablement un souvenir comme un autre finalement.
Axel, des réactions sur le mot-clé l'attaque?
Une petite question sur l'amnésie. L'étude des faux souvenirs peut-elle aider à traiter à terme les amnésiques?
André Didier-Jean, est-ce que vous voulez répondre? Ou Sébastien Boller, peut-être Sébastien?
Je crois que la technique des faux souvenirs a plutôt eu des conséquences désastreuses. Alors on l'a vu à travers l'exemple de ces personnes accusées qui, d'un moment, soit capitulent et avouent quelque chose qu'ils n'ont pas commis simplement pour en finir, soit ces personnes qui véritablement sont ensuite convaincues d'avoir fait quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Et puis il y a eu aussi des conséquences terribles dans le domaine de la psychothérapie, puisqu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une vague de procès aux États-Unis à l'encontre de certains psychothérapeutes qui apparemment avaient réussi à implanter des faux souvenirs dans l'esprit de leurs patients, qui du jour au lendemain étaient persuadés d'avoir été victimes de viol dans leur enfance alors que ça n'avait pas été le cas, voire de s'être livrés à des actes de cannibalisme. Enfin, on peut vraiment mettre, quand on est dans une relation d'intimité, de confiance, de pression subtile avec un sujet, lui mettre à peu près tout et n'importe quoi dans la tête, comme disait André Didier-Jean. Donc cette vague de procès aux États-Unis a été ressentissante parce qu'on se rendait compte que ça pouvait avoir lieu dans le cadre d'enquêtes judiciaires, aussi dans le cadre de la relation de confiance avec un psychothérapeute si celui-ci est particulièrement manipulateur et intentionné. Donc je ne crois pas que, à mon sens, à ma connaissance, que les techniques d'implantation des faux souvenirs puissent avoir une vertu thérapeutique.
André Didier-Jean, pour terminer, donc 70% de ces étudiants sont convaincus d'avoir commis des actes criminels imaginaires. À la lumière de cette étude, comment on peut faire justement pour que les pressions policières ne se transforment pas en erreurs judiciaires ?
Je crois déjà que ça dépasse l'aveu du crime, parce que le même genre de phénomène s'observe sur des témoins, qui n'ont pas forcément commis le crime, mais qui vont décrire une scène, décrire une personne ayant fait un délit, etc. Alors ce qui est vrai, c'est que ces travaux nous apprennent finalement, on sait un certain nombre de choses sur ce qui provoque, augmente le risque de faux souvenirs. Donc clairement, à l'inverse, on peut les limiter. On sait par exemple, et là c'est ce que font les auteurs des études dont on parle, que imaginer dans sa tête la scène et être incité à l'imaginer augmente le risque par exemple de faux souvenirs. On peut éviter ce genre de choses, ou la répétition aussi des interrogatoires. On sait que ce qui est peut-être un vague souvenir la première fois devient une certitude la troisième.
Voilà, en tout cas, étude qui vient de paraître dans le Psychological Journal. Merci André Didier-Jean ainsi que Sébastien Boller dans les bureaux de Cerveau et Psycho. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la super mémoire des personnes âgées étudiée par les chercheurs. Certains types de neurones expliqueraient l'exceptionnelle mémoire des super agers. Ce terme désigne des personnes âgées de plus de 80 ans avec une mémoire très performante et une vivacité supérieure à des individus de 60 ans. Les neurones veines, habituellement liés à l'intelligence sociale, ont été constatés en grande quantité chez ces super agers. Ces personnes représentent une très faible portion de la population et elles intéressent donc de plus en plus les scientifiques. Même les cafards ont une personnalité. Des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles ont observé des groupes de cafards, tous confrontés à la même situation, et ils ont relevé des différences de réaction évidentes. Certains cafards seraient selon eux timides, d'autres plus intrépides dans leur choix. Cette découverte pourrait expliquer leur succès évolutif et leurs étonnantes capacités de survie. Et puis enfin, la plupart des requins ne supportent pas l'eau douce. Une étude américaine révèle que l'absence de sel dans l'eau les fait couler. Contrairement aux poissons osseux qui utilisent leur vessie comme un flotteur, les requins ne disposent que de leur foie. Mais celui-ci n'étant pas assez riche en matière grasse pour leur permettre de flotter dans l'eau douce, eh bien ils coulent. Une des seules exceptions, c'est le requin bulldog qui lui survit en eau douce grâce à son foie qui justement est très gras. Les bienfaits de la méditation étudiés par la science et dans un instant dans le dossier. We'll be right back.
years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control.
Sort the World avec Nirvana sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La méditation face à la science, donc cet après-midi avec mes invités pour comprendre comment cette pratique modifie notre cerveau avec ses effets bénéfiques pour le corps et l'esprit. Nous sommes en partenariat avec le magazine Pour la Science qui propose un grand dossier sur le sujet dans son dernier numéro qui est actuellement dans les kiosques. Et pour en parler, Antoine Lutz, donc vous êtes chercheur en neurosciences cognitives à l'INSERM au sein du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. À vos côtés, Michel Levent-Cuen, vous êtes également chercheur à l'INSERM et vous dirigez un groupe de recherche à l'Institut du Cerveau et de la moelle épinière à Paris. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Les pouvoirs de l'esprit, transformer son cerveau, et bien c'est possible, voilà ce que vous nous promettez aux éditions Flammarion. Et puis Marc De Smet, vous êtes écrivain, éditeur et directeur de la rédaction de cette revue Question 2, dont le dernier numéro, qui lui aussi est en kiosque, est consacré
en
donc
librairie.
En librairie, pardon, consacré donc à l'aventure incontournable de la méditation. C'est donc avec des témoignages et des reportages autour de beaucoup de personnalités dont on va parler avec vous. Les messages nombreux arrivent déjà sur France Inter. Et sur le mot-clé, l'attaque. Marc De Smet, justement, comment est-ce que vous êtes lancé, vous, pour la première fois, dans cette pratique de la méditation, hein? On disait tout à l'heure 45 ans de pratique.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'étais journaliste dans une radio périphérique.
Ah tiens.
Oui. Et je pars en vacances et je suis très pollué mentalement, pourrait-on dire, par mes occupations diverses. Je suis jeune journaliste, donc évidemment très préoccupé
fougueux
par tout ça.
Voilà.
Et je m'aperçois que même quand je suis sous l'eau avec mon tuba et mon masque, eh bien je reste radio. Et je tombe sur un petit bouquin avec un professeur, Lazare Lazario, qui dit qu'il a trouvé une technique de respiration qui l'a incroyablement aidé dans sa santé psychique et physique, psychosomatique, en simplement regardant des bébés vagir et s'apercevoir qu'ils respiraient en fait très très mal du haut des poumons, comme nous tous d'ailleurs,
oui.
Puisque nous avons une respiration très automatique, et que tandis que les bébés respiraient vraiment complètement avec le ventre. Et il s'est dit, tiens, je vais essayer de faire la même chose, et pour faire comme eux, il a très simplement chanté chaque voyelle jusqu'au bout du souffle, trois fois, vraiment jusqu'au bout du souffle, et il s'est rendu compte que ça lui donnait une sorte d'ouverture incroyable,
d'ampleur,
et que
ouais.
Ça lui faisait un bien fou et que ça le guérissait d'un certain nombre de troubles qu'il avait. J'essaye ça et c'est comme une douche psychique. Je me sens beaucoup mieux, je peux enfin profiter de mes vacances. Et à partir de là, je me suis dit, je m'intéressais déjà aux philosophies orientales, pourrait-on dire, mais parce que je trouvais qu'elles étaient complémentaires de nos philosophies occidentales et qu'elles amenaient un plus. Mais je me suis dit, mais il y a quelque chose là, parce que les philosophies orientales ne sont pas que théoriques, elles sont aussi basées sur des gymnosophies, c'est-à-dire des gymnastiques de sagesse, yoga, zen, etc., etc., tai chi ou autre. J'ai envie de m'intéresser à tout ça. Et donc, je m'y suis mis. Et voilà. Et je dois dire que c'est un programme
et
qui est passionnant.
Et vous continuez toujours, hein, voilà. Vous méditez tous les jours,
hein. Je médite tous les jours, oui, un petit peu tous les jours. Il ne faut pas non plus devenir obtus, hein. Donc il y a des jours sans, des jours avec. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Je médite un peu tous les jours, pas trop longtemps, etc. Et un peu en mouvement, un peu en immobilité.
Michel Levenkuen, est-ce que la méditation, justement, c'est une forme de spiritualité ou est-ce que c'est tout simplement un entraînement de l'esprit comme on pourrait pratiquer un entraînement de nos muscles?
Donc, d'après moi, je pense qu'il faut un tout petit peu préciser un peu les choses, surtout dans le domaine de la recherche sur ce domaine, justement la recherche scientifique. Je pense que la notion d'esprit, en particulier en français, porte un certain nombre d'ambiguïtés qu'il faut probablement un tout petit peu éclaircir. Donc d'un côté, vous avez l'esprit qui est conçu comme l'âme, c'est-à-dire ça renvoie au spiritus latin, c'est-à-dire le souffle vital d'une certaine manière. Et donc ça renvoie immédiatement, oriente vers des conceptions plutôt religieuses et mystiques. C'est très difficile pour la science d'aborder ce genre de domaine. Par contre, il y a une deuxième définition de la notion d'esprit qui est proche de la notion de mind en anglais. Donc c'est en fait tout simplement tout ce qui se passe dans notre tête. Donc les émotions, la pensée, les souvenirs, donc la vie psychique et la vie mentale en général. Donc par exemple, on a cette définition dans l'expression « être dans tel état d'esprit ». Donc c'est un peu cette notion d'esprit qui me semble proche de ce que peut aborder en fait la recherche. Donc c'est, bien sûr, c'est une porte vers la spiritualité. C'est une porte vers la deuxième définition d'une certaine manière de l'esprit qui est liée à la spiritualité. Mais pour la recherche, je pense qu'il y a une certaine frontière qu'il faut bien tracer.
Pour qu'il n'y ait pas trop de confusion, hein, oui. Évidemment, entre les pratiques. Antoine Lutz, alors vous, c'est l'objet scientifique, hein, qui vous intéresse justement en tant que chercheur. Mm-hmm. Comment vous avez commencé vous aussi? C'est intéressant de connaître un peu vos parcours de scientifique autour d'un thème qui paraît si opposé, hein, de prime abord.
C'est un petit peu par hasard, en fait, parce que je m'intéressais à étudier scientifiquement l'expérience subjective, la conscience. Et pendant mon master, j'ai rencontré mon directeur de thèse, Francisco Varela, qui m'a expliqué que bon, si vraiment je veux comprendre ce que c'est vraiment la conscience, il faut commencer par avoir une sorte d'intimité, un rapport direct avec l'expérience d'être conscient. Mm-hmm. Et ben, dit, je te conseille d'essayer la méditation, tu vas mieux comprendre, avoir une plus grande... de pouvoir te familiariser avec tes émotions, avec ton attention, ton ressenti, et ça sera un bon point de départ pour étudier vraiment scientifiquement la conscience.
Ouais, donc vous y êtes mis, hein, vous avez pratiqué,
voilà, oui.
Vous avez éprouvé et vous êtes dit tiens, je peux mettre en place un protocole scientifique.
Voilà, donc après, une fois qu'on a vu qu'il y a des effets de ces pratiques sur notre expérience consciente, on se dit que ça peut devenir un objet d'étude intéressant.
Oui.
Non seulement pour comprendre des questions fondamentales sur le fonctionnement de l'esprit, comme disait Michel, hein, sur la nature de la conscience, l'attention, les émotions, mais en plus, ça peut avoir des conséquences, comme on va le dire un peu plus tard, je pense, sur les applications cliniques.
Bien sûr, avec les bienfaits pour la santé et les transformations du cerveau aussi, hein, qui sont observées. Michel Levenkuen.
Non, je voulais seulement rappeler, il faudrait rendre un peu hommage à la personne qui est Francisco Varela. J'ai fait aussi ma thèse avec lui. En fait, c'était une sorte de visionnaire. On a eu la chance de l'avoir en France. Il est malheureusement décédé en 2001. Mm-hmm. Mais c'était vraiment un des pionniers. En particulier, c'est lui qui a mis en place, en fait, ces dialogues fameux qui s'appellent Mind and Life. Et donc, c'était vraiment un visionnaire dans ce domaine. Et donc, il avait l'originalité d'être d'origine chilienne, donc il a dû partir du Chili en raison du putsch de Pinochet. En fait, il a rencontré le bouddhisme à Boulder, en fait, au Colorado, avec Shogyam Trungpa, qui est un des grands maîtres bouddhistes occidentaux. D'après Fabrice Mittal, c'est même celui qui a apporté le bouddhisme en Occident.
Oui.
Et donc, Francisco Varela a rencontré ce maître ça l'a incité d'une certaine manière à faire ces dialogues entre le bouddhisme, particulier les Tibétains, et la science.
Alors, justement, on va écouter l'un de vos patients, Mathieu Ricard, qui se prête de bonne grâce, justement, à vos expériences, participants, pour justement étudier ce qui se passe dans son cerveau en train de méditer. Moine bouddhiste, évidemment, interprète du Dalai Lama et qui est en faveur de l'introduction de la méditation dans les hôpitaux, comme ça se pratique d'ailleurs aux États-Unis.
Depuis maintenant 30 ans, John Kabat-Zinn a porté dans les services médicaux cette réduction du stress par la pleine conscience, le MBSR en anglais, qui maintenant est complètement admis dans les systèmes hospitaliers, dans près de 200 hôpitaux aux États-Unis, aussi à Hong Kong, en Afrique du Sud et ailleurs, simplement parce que vous avez aussi bien des professeurs d'université que des camionneurs qui sont là et qui, au cours de leur traitement contre le cancer ou à la suite d'une opération cardiaque, quand leur corps physique est fortement perturbé, trouve un très grand réconfort, non seulement un réconfort, je dirais, de moral, mais surtout de se sentir mieux, même au sein de leur maladie, ou même d'utiliser l'énergie de la maladie pour quelque chose de plus constructif, grâce à cette meilleure façon de faire l'expérience des choses.
Voilà le témoignage de Mathieu Ricard, avec lequel vous travaillez régulièrement, Antoine Lutz.
Oui, j'ai la chance de pouvoir le fréquenter très souvent.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui a un pied dans un nombre d'activités bénéfiques vraiment incroyables depuis la collaboration avec les scientifiques, mais aussi des œuvres humanitaires.
Marc de Smet, ce courriel de Jean-Paul qui nous dit ceci: je suis un peu sceptique sur l'intitulé de l'émission La méditation vue par la science. Si la méditation existe en bon rationaliste matérialiste, dit-il, je crois que c'est un état cérébral spécifique, donc oui ça existe, mais c'est du fonctionnement cérébral, donc physico-chimique.
Oui, ben on ne peut être que d'accord. Mais vous savez, il y a une formule, celle la fameuse de Descartes, qui dit « je pense donc je suis », mais on oublie une autre formule qui est très très intéressante, où il dit « il y a en nous une conscience qui a conscience de la conscience ».
Ah oui.
Et en fait, la méditation c'est ça, c'est-à-dire qu'on devient spectateur de nous-mêmes, oui, au lieu d'être acteur. Et partant de ça, ça change tout, parce qu'on peut se mettre un petit peu à distance avec nos préoccupations, nos soucis, nos fantasmes, enfin tout ce qui s'agite dans notre cerveau, et regarder cela. Et rien que ça, ça crée une sorte de calme intérieur, parce que tout d'un coup, on n'est plus pris par, en quelque sorte, ce jeu J-E-U, et par ce jeu J-E, si vous voulez, et on laisse place à quelque chose de plus grand en nous. Donc c'est très très intéressant. Je trouve que ce qui m'intéresse vraiment dans la méditation, c'est qu'elle devienne de plus en plus laïque, en quelque sorte, et que justement, elle sorte, en quelque sorte, du champ de la spiritualité. C'est ce qu'on a essayé de faire, parce qu'il y a évidemment le champ de la spiritualité dans la méditation, on peut en parler aussi, mais... Et il y a aussi, c'est un simple outil qui peut vraiment rendre des services de plus en plus importants aujourd'hui dans un monde de plus en plus bruyant et de plus en plus stressé.
Bah c'est ce qui nous intéresse, voilà, avec vous pour en découvrir les bienfaits dans un instant. Beaucoup de messages sur franceinter.fr.
Commencez simplement déjà par fermer les yeux. Inspire.
Without a body, pull me into your city. Don't let me be an exile. I said, talk to me. I'm a hand without an arm, and I'm cut off from the creature, from the city of your body. Won't you talk to me?
Avec Kyrie, Chris Manson dans cette tête au carré en pleine méditation avec nos invités Antoine Lutz, Michel de Vanquen, donc chercheur, et puis Marc de Smet qui est écrivain, éditeur, avec ce nouveau numéro de Questions 2, le premier numéro d'ailleurs autour de la méditation, cette aventure incontournable. Et nous sommes en partenariat avec Pour la Science. Beaucoup de messages. François nous dit ceci: c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types de méditation. Personnellement, je pratique le mindfulness après avoir suivi le protocole de départ grâce à une psychiatre et ça change réellement mon quotidien. Antoine Lutz, c'est important de le préciser parce que vous aussi, vous regardez les différentes méditations, hein,
oui, alors,
vos outils.
Effectivement, donc, dans une des études pilotes qu'on avait fait, notamment avec des experts comme Mathieu Ricard, on s'était intéressé à au moins trois styles de méditation, des pratiques d'attention focalisée, qui va plutôt la stabilité de l'attention, comment l'esprit peut être concentré. Après, des pratiques de pleine conscience qu'on va, je pense, aborder après. Et finalement, des pratiques qui plutôt du pratique de cœur, qui permettent de cultiver l'amour bienveillant, la compassion.
Oui.
Et ça, c'est juste un exemple d'un ensemble de familles de styles de méditation. Pour la petite histoire, les Tibétains qui aiment bien les grands chiffres disent qu'il y a plus de 84 000 sortes de méditation. Mais...
Bon, vous n'allez pas tous les passer en revue, voilà. Alors pour le protocole, ça va être un petit peu compliqué. Concrètement, ça consiste en quoi quand vous avez Mathieu Ricard ou quand le Dalai Lama se prête à ce type d'exercice? C'est-à-dire qu'on lui met des capteurs sur la tête et on le met dans un IRM?
Oui, le Dalai Lama n'a pas participé personnellement à ces expériences, mais des experts comme Mathieu Ricard, oui, ils viennent. Souvent, en fait, c'est un dialogue. Parce que nous, on essaie de comprendre un peu l'impact sur le très long terme de ces états de méditation. Et c'est un peu des collaborateurs qui nous... Donc Mathieu, par exemple, on discute, on dit, voilà, on pense que ça va avoir cet aspect, ses conséquences sur cette fonction, on pense trouver cette tâche, etc. Et Mathieu permet, en fait, dans un dialogue, de raffiner nos hypothèses. Et une fois qu'on a trouvé un bon protocole, on va en faire collecter des données préliminaires avec lui pour voir si, effectivement, sa tâche pourrait marcher pour caractériser l'impact à long terme de la méditation.
D'accord. Et vous faites appel à une IRM, justement,
on prend l'IRM fonctionnel et aussi l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, par exemple.
Ouais. Michel de Vanquen.
Non, je voulais indiquer quelque chose, c'est-à-dire que l'ensemble de ces pratiques méditatives, en fait, se basent sur, en fait, une propriété du système nerveux qu'on appelle la neuroplasticité. Je pense que c'est important de commencer par là, parce qu'en fait, il y a quelques dizaines d'années, en fait, on pensait que le cerveau adulte était une sorte de système pré-câblé, en fait, une fois pour toutes. Et donc une sorte de hardware d'un ordinateur, et en fait c'est pas du tout le cas.
Et c'est très récent finalement comme découverte.
C'est
hein.
Quelques dizaines de
c'est
d'années,
étonnant,
disons.
Hein. Ouais.
Donc en fait à chaque apprentissage, à chaque action, même à chaque pensée, en fait le cerveau se transforme.
C'est ça.
Et donc c'est la même manière en fait qu'un entraînement physique façonne la musculature. En fait un entraînement mental peut transformer d'une certaine manière le cerveau, et c'est ce qu'est la méditation. Ça veut dire pratiquement que si on s'entraîne suffisamment longtemps, eh bien l'esprit d'une certaine manière peut transformer le cerveau qui lui donne naissance. C'est ça, à mon avis, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on retrouve dans d'autres champs que la méditation. Par exemple, ce qui a été montré dans les chauffeurs de taxi londoniens, c'est un exemple bien célèbre où c'est les chauffeurs de taxi qui
ont la carte hein, dans le cerveau quasiment des rues de Londres.
Rues de Londres par cœur. Et donc, ils ont un hippocampe, donc cette petite région du cerveau qui est spécialisée dans le traitement de la mémoire spatiale, eh bien, qui gonfle, qui a plus de volume.
Oui.
Donc, ça montre qu'un entraînement intensif peut transformer véritablement le cerveau dans sa structure.
Marc de Smet, qu'est-ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, justement, pour poursuivre aussi?
En fait, c'est une méditation qui consiste à rester vraiment présent à ce qu'on fait. Parce que la plupart du temps, on est, comme le dit très bien l'adage populaire français, perdu, noyé dans ses pensées. Et tout d'un coup, de se remettre, et ça, en cela, la respiration consciente aide énormément. Je dis souvent que la respiration consciente se confond avec la conscience tout court, parce qu'elle nous permet de nous débarrasser en quelque sorte de notre pollution psychique. Elle nous aide à éclaircir en quelque sorte. Il y a une très belle métaphore orientale qui compare la méditation à une montagne. Autour de la montagne, il y a des nuages. Ce sont nos pensées, préoccupations, etc., etc. Et puis il y a le vent qui souffle sur les nuages. Et bien, c'est notre respiration. C'est une très très belle image, toute simple, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut en fait méditer, pas uniquement assis, immobile. Oui. On peut méditer partout. Dans la rue, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est barré. Hop, on respire profondément,
on chasse
et puis
les nuages.
Hop, on y revoit clair. Et la base de la méditation de pleine conscience, c'est ça. Mais alors, ça peut être en mangeant. Ben, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange nos pensées, ce qui passe dans notre tête, ou est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on est en train de mâcher, etc., etc., etc. Il y a tout un travail qu'on peut faire comme ça toute la journée, qui est tout à fait bénéfique, en effet, pour progresser tout simplement en soi. Quoi.
Alors, à quoi peut ressembler justement une séance de méditation? Sur Internet, il y a des cours aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ce que ça donne en tout cas.
Bienvenue pour cette méditation guidée sur le souffle. On commencera par prendre une posture qui nous paraît la mieux appropriée pour cette séance. On parle d'habitude d'une posture digne, une posture qui montre un certain respect pour le corps, pour vous-même, mais surtout, de façon plus pragmatique, une posture qui sera favorable à la fois pour la présence à la fois pour un certain confort, c'est-à-dire ne pas basculer dans une forme de tension au cours de cette pratique.
Voilà, donc un cours sur Internet. Marc de Smet, qu'est-ce que vous en pensez ? Vaut mieux avoir quand même quelqu'un avec soi ou...
Vous savez, il y a beaucoup de livres qui sont parus et qui sont des gros succès d'ailleurs, puisque les livres de Christophe André sont depuis des dizaines de mois, c'est hallucinant, en tête des best-sellers, bon, par exemple.
Et lui, il pratique à l'hôpital, à Sainte-Anne, en l'occurrence.
Lui, il pratique à l'hôpital, évidemment, dans un donc, milieu hospitalier, auprès de gens qui ont des psychoses pas trop graves et puis aussi des états dépressifs surtout. Mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de livres qui proposent des CD audio pour aider à pratiquer.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, bien sûr. Alors là, vraiment, il n'y a pas de. À partir du moment où on n'en fait pas un système mercantile effréné, mon Dieu, pourquoi pas ?
Antoine Lutz, les bienfaits sur la santé, ça nous intéresse. Qu'est-ce que, en tant que chercheur, vous avez observé ? Alors, et que montrent les études ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées dans le monde. Je crois qu'il y a une compilation importante aujourd'hui de travaux.
Oui, c'est intéressant. Je m'étais amusé à mettre. Le terme mindfulness et méditation dans une base de données PubMed, et il y a vraiment une augmentation quasi exponentielle
des études.
Oui, du nombre de publications depuis les années 80 environ. Ouais. Donc moi, je m'intéresse plutôt au côté neuroscientifique, mais j'ai collaboré récemment avec une chercheuse, Perla Kalimann, qui est une biologiste moléculaire à Barcelone, qui a montré que. On a montré qu'après une journée intensive de pleine conscience, on a fait un prélèvement sanguin avant-après 8 heures intensives de méditation, et on a pu montrer qu'il y, a, il y avait une influence de cette pratique sur des enzymes régulant la lecture du génome, et aussi un effet sur l'expression de gènes impliqués dans l'inflammation. Donc il y avait une régulation de ces gènes qu'on ne trouvait pas chez les contrôles qui faisaient une journée de repos pendant 8 heures. Mmh. Donc ça, c'était un exemple. Sinon, un autre exemple que je trouve assez spectaculaire, c'est celle faite par l'équipe de Cliff Sharon en Californie. Ils ont étudié l'effet de la méditation sur la longévité des cellules. Et ils se sont intéressés à une enzyme qu'on appelle les télomérases, qui permet de rallonger les segments d'ADN à l'extrémité des chromosomes. Et donc ces télomères sont très importants parce que ça assure la stabilité du matériel génétique pendant la division cellulaire. Et donc ces télomères se raccourcissent à chaque division cellulaire. Et quand la cellule, ça diminue trop, ben la cellule meurt en fait. Mmh. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'après 3 mois intensifs de méditation, l'activité donc, de cette enzyme, la télomérase, était plus élevée chez ceux dont le stress physiologique avait diminué de par la méditation. Et on ne trouvait pas cet effet chez les groupes témoins. Et donc ça, cette découverte suggère que la méditation pourrait... avoir un impact sur le vieillissement cellulaire de certains participants. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y a aussi une étude qui a montré que au niveau du cerveau, il semblerait qu'il y a ça pourrait affecter aussi le vieillissement cognitif, donc le vieillissement du cerveau dans une étude récente.
Michel Evanquen, toujours. Bonjour. Alors peut-être sur les bénéfices et sur la physiologie avant de parler du cerveau.
Je veux simplement expliquer en fait que l'investigation un peu scientifique de la méditation se fait surtout en fait par l'introduction en fait de ces méthodes dans le domaine hospitalier. En particulier John Kabat-Zinn, je pense c'est important de le dire, à partir des années 70, a mis en place une sorte de programme de gestion du stress basé sur la méditation, ce dont Mathieu Ricard parlait tout à l'heure, le MBSR. Donc et en fait c'est un programme qui est très américain, donc qui est très standardisé. Ça dure 8 semaines, c'est 2h30 par semaine, tous les jours on doit méditer. Donc le fait que c'est très standard permet en fait une évaluation scientifique relativement précise de tous les effets. Donc vous prenez deux groupes, un groupe qui ne fait pas ce programme et un autre qui fait le programme, et vous pouvez comparer les bénéfices. Donc ça c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de poids et de précision aux observations qui viennent d'être rapportées. C'est qu'une investigation scientifique peut être possible parce que ça rentre dans un cadre, disons, systématique.
Oui, Marc de Smet, est-ce que d'abord les moines bouddhistes sont en bien meilleure santé que le commun des mortels ou pas ? Est-ce qu'il y a une nette différence, eux qui pratiquent la méditation beaucoup plus souvent ?
S'ils ne font pas trop d'excès, sûrement.
Ouais.
Non, mais en tout cas, ça fait du bien. C'est très certain que ça fait énormément de bien.
Non, mais il n'y a pas des travaux là-dessus ?
Ah, mais il y a des travaux sur
sur la santé des moines.
Sur l'immunité, en tout cas. Nos amis peuvent nous en parler, je pense.
Antoine Lutz.
Je ne sais pas, ça a été vraiment étudié.
Ce serait intéressant quand même. Intéressant, de voir mais, par rapport à une population normale.
Oui, mais aussi parfois, je pense aux experts qui font des méditations très intensives traditionnellement dans des grottes, dans les montagnes. Souvent, c'est des gens qui sont ils mettent vraiment leur corps à l'épreuve aussi. Donc je pense qu'il y a aussi ils ont aussi un style de vie parfois qui peut être très dur. Donc je pense qu'il faudra évaluer ça scientifiquement. Mais ce qui est certain, c'est que dans les études dont on a parlé, il y a effectivement des effets sur l'inflammation, sur le vieillissement cellulaire.
Oui, sur le stress.
Sur le stress en général.
Il y a énormément de travaux là-dessus. Le stress social, évidemment.
Aussi. On a montré
la douleur.
Aussi. La douleur aussi. Oui.
Marc de Smet.
La douleur, oui, puisque ça a été, avec Kabat-Zinn, étudié dans des centres de cancérologie où vraiment il fallait gérer en quelque sorte les soins et les difficultés des personnes à vivre leur maladie.
Sur les défenses immunitaires.
Il y a aussi sur l'inflammation.
De ce que vous disiez tout à l'heure.
Et la douleur chronique, il y a plusieurs études en imagerie aussi.
Ludovic nous dit ceci, la méditation en groupe a-t-elle été étudiée? Est-ce qu'il y a un avantage quelconque, un échange d'ondes positives entre les différents esprits présents? Marc de Smet.
Écoutez, étudier, je ne crois pas du tout, mais en tout cas, je peux dire un mot de ce que disait mon maître Zen, que j'ai suivi pendant une dizaine d'années, et qui disait, la méditation en groupe, c'est comme un feu de bois. Plus on met de bûches, plus le feu est fort. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de système d'émulation qui est tout à fait bon et qui peut être intéressant, mais voilà.
Je pense qu'il y a tout un phénomène, ce qu'on pourrait appeler des résonances émotionnelles lorsque vous pratiquez avec d'autres personnes. Si vous avez rencontré Mathieu Ricard, par exemple, vous sentez très bien seulement sa présence. C'est une bienveillance naturelle qui irradie d'une certaine manière. Et ça, c'est, je pense, assez bien connu finalement par les neurosciences. C'est-à-dire que ces phénomènes de résonance émotionnelle avec d'autres, en fait, ont des conséquences positives. Parce que la présence d'amis, par exemple, est connue pour réduire l'anxiété, réduire le stress et aussi conforter le système immunitaire. Donc probablement, même si c'est bien sûr un des aspects positifs de la méditation, en fait, le fait de faire en groupe, et le programme de Jon Kabat-Zinn se fait en groupe, permet à mon avis d'avoir un certain nombre de bienfaits aussi de cette pratique.
Allez, on se retrouve dans un instant et d'autres messages pour vous. Franceinter.fr et les messages courts avec le mot-clé l'attaque sur le compte Twitter.
Alors ça fait quoi? Raconte-moi, est-ce que c'est bon d'être enfant amoureux? Toutes ces nuits, t'es mort mille fois pour vivre un jour ce moment-là. La vie quoi?
et c'est Kali. La méditation, Antoine Lutz, Michel de Vanquen et Marc de Smetten, mes invités. Vos messages très nombreux, franceinter.fr. Ludovic, à Taïwan, on le salue, nous demande est-ce que les enfants peuvent méditer et comment en pratique introduire la méditation aux enfants. Marc de Smetten.
Tout à fait, il y a actuellement, doucement en France, mais par exemple aux Pays-Bas, un mouvement qui se développe très très fort sur la transformation de certains gestes tout simples de yoga à l'école et qui font énormément de bien. Bon, il suffit par exemple de les amener à se relaxer, à mettre leurs mains sur le ventre, à leur faire respirer par le ventre, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, profondément, et à faire un peu le vide en eux-mêmes. Et ça marche très très bien. Ils comprennent tout de suite que ça leur fait du bien. Ils sont hyper speedés la plupart du temps, hyper nerveux, etc. Ils souffrent d'ailleurs très souvent de maux de ventre parce qu'ils sont assez angoissés par l'angoisse générale, et ça les amène à se détendre. Et ce sont des programmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un livre qui est paru, Calme comme une grenouille, aux Pays-Bas, fait par une dame qui pratiquait cela, et que le ministère de l'Éducation des Pays-Bas a dit, mais écoutez, nous, on offre une séance à tous les éducateurs qui veulent s'intéresser à ça, pour aller plus loin dans ce domaine-là. Je crois que c'est tout à fait.
Ça a été traduit en français.
Ça a été traduit en français.
Ce livre en français avec un CD.
Tout à fait. Et on a fait un reportage d'ailleurs dans ce numéro de Question 2.
Le lien est sur
le yoga à l'école et avec une inspectrice de l'éducation nationale qui en parle aussi.
Antoine Lutz, sur les enfants toujours.
Oui, alors je vais juste dire qu'il y a une très grosse étude qui est en cours aux États-Unis, donc dans le laboratoire de Richard Davidson dans le Wisconsin, où ils sont en train de collecter des données empiriques sur l'impact d'un programme de méditation adapté pour les enfants, pour voir l'impact sur des différentes fonctions cognitives, des fonctions aussi sur les émotions, sur les performances à l'école, les interactions entre les élèves. Et donc je pense d'ici 2-3 ans, il y aura plus de données empiriques pour vraiment voir si c'est quelque chose qui est prometteur ou pas. Et un autre point que je trouve intéressant de dire, c'est que je pense que la méditation pourrait être utile à l'école, chez les enfants, non seulement en éduquant les enfants, mais aussi peut-être en éduquant les enseignants eux-mêmes, parce que ça leur permettrait de peut-être mieux gérer leur propre stress, leur propre réactivité dans le cas de conflit avec les... Et donc je pense que c'est aussi, il y a d'autres études qui sont en cours pour voir si simplement apprendre à méditer à des enseignants va pouvoir avoir des impacts sur les enfants eux-mêmes.
Michel de Vanquen.
Non, il faut voir un peu la méditation comme une sorte d'apprentissage de l'attention. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend finalement pas beaucoup à l'école, d'apprendre une certaine manière à contrôler son esprit. Et je pense que c'est quelque chose de très utile pour les enfants, d'apprendre à se réguler, d'être plus attentif, à se déstresser d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est vraiment très utile.
Antoine Lutz, les travaux sur la dépression aussi, ils ont été menés.
Alors oui, je pense que ce sont les résultats cliniques les plus forts dans la littérature. C'est notamment les travaux donc de deux psychologues cliniciens, Zindel Ziegel et Mark Williams. C'était fait donc à Toronto et à l'Université de Cambridge. Et ils ont montré que ces programmes de méditation, combinés avec des thérapies cognitives, permettent de prévenir la rechute dans la dépression après un entraînement de 6 mois, avec faire baisser le taux de rechute de plus de 40%. Donc c'était la première étude. Et une autre étude qu'ils ont fait, qui était une étude randomisée clinique, ont montré un résultat très intéressant, c'est que, cette intervention de type mindfulness permet de ralentir la rechute dans la dépression, mais de manière comparable à un traitement médicamenteux.
C'est ça, sans les médicaments, c'est tout l'avantage.
Ces deux bras en fait, étaient supérieurs à un effet placebo. Donc ça montre que ça peut avoir un effet...
Justement, l'effet placebo, Marc de Smetten, est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est un effet placebo, tout simplement?
J'ai pas l'impression, je trouve que c'est vraiment un effet réel et... Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc ça dépend comment on définit l'effet placebo, qui est quand même très péjoratif souvent. Je pense que ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de l'esprit, c'est aussi l'autosuggestion. C'est-à-dire que c'est très bien connu au niveau des neurosciences, c'est lorsque vous avez une attitude positive par rapport à l'amélioration de votre traitement, votre cerveau déjà sécrète un certain nombre de molécules guérisseuses qui vous font du bien. Par exemple, dans les cas des douleurs, en fait, on sait que ça génère des endorphines, donc des morphines naturelles générées par le cerveau.
Nous dit ceci, la méditation aurait la capacité de transformer le cerveau, certes, mais ces modifications sont-elles obligatoirement bénéfiques? Ah, oui, c'est vrai. Mal utilisées, est-ce qu'on ne peut pas avoir un effet
En fait, c'est
nocebo, là, pour le coup?
Oui, c'est une très bonne question qui n'est qui a été très peu étudié pour l'instant. Il y a quelques cas dans la littérature de dépersonnalisation, mais ça, c'est un des cas un peu extrêmes de personnes qui ont essayé de méditer, soit tout seul en lisant des livres un peu ésotériques, ou bien des gens qui ont fait des retraites très très intenses pendant plusieurs années et qui sont être bien suivis. Donc ça, c'est une question qui est mal connue. Il y a une chercheuse à l'université de Brown aux États-Unis qui commence à s'intéresser à cette question. Donc on aura plus de données bientôt. Mais en général, juste pour assurer l'audience, que les programmes courts de type de Jon Kabat-Zinn dont parlait Michel avant, à ma connaissance, il n'y a pas d'effet
négatif. Hein. Marc de Smet, vous confirmez a priori une bonne pratique quotidienne, raisonnable.
On a commencé l'émission par un effet négatif qui est celui des faux souvenirs qu'on peut injecter à quelqu'un, mais on peut aussi s'injecter en effet. Se libérer soi-même d'un tas de faussetés, pourrais-je dire, et d'illusions et de problèmes en travaillant sur soi-même.
Alors, le cerveau, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Il nous reste à peine 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement des travaux de recherche sur le cerveau, Michel Levenkuyn, quand on regarde un méditant?
Une des choses, à mon avis, qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation en fait de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc c'est en fait le cerveau en fait régule a une influence sur l'ensemble du corps et des organes par un système qu'on appelle une sorte de pilote automatique. Oui. Qui s'appelle ce système nerveux autonome avec deux grandes branches, le système parasympathique et le système sympathique. Donc vous avez d'un côté une sorte d'accélérateur physiologique qui génère un certain nombre d'hormones comme les adrénalines ou le cortisol. Et de l'autre côté, vous avez en fait un système qui est une sorte de frein qui vous permet en fait de vous... toutes les fonctions vitales sont d'une certaine manière régénérées en fait et vous permet de vous sentir mieux. Et donc il y a une sorte d'équilibre très subtil entre ces deux types de systèmes et justement en cas de stress chronique, il y a une dérégulation de ce système. Il y a trop de cortisol dans votre sang, il y a différents troubles cardiovasculaires qui peuvent apparaître. Et je pense que la méditation a un effet directement sur ce système. Permet d'être moins stressé, permet d'avoir des défenses naturelles de votre système immunitaire beaucoup plus disant forte.
Et Antoine Lutz, donc on parlait tout à l'heure de neuroplasticité, donc ça c'est important aussi, cette souplesse au fond du cerveau.
Oui, c'est l'idée de la même manière que ce que dit la méditation, les traditions contemplatives, c'est que vous pouvez transformer votre esprit et ça résonne avec ce concept de neuroplasticité qui dit que lorsque vous faites n'importe quel apprentissage, il va y avoir une réorganisation fonctionnelle et même structurelle du cerveau. C'est-à-dire que des réseaux vont travailler différemment et même des structures vont changer. Donc, pour faire bref, il y a dans la littérature maintenant des évidences que c'est le cas pour la méditation. Mais pour rentrer dans les détails, il y a différents styles de méditation. Donc, chaque style de méditation va probablement affecter différents réseaux, selon que vous entraînez un système plutôt attentionnel, un système de métacognition, ou bien si vous travaillez aussi sur des pratiques comme la compassion, ça va changer des réseaux impliqués plutôt dans l'empathie, dans la résonance qu'on a avec les autres, ou dans le système de la récompense. Donc il faut vraiment voir un peu ça au cas par cas, mais l'idée centrale, c'est qu'il y a quand même un impact de ces entraînements sur la... il semblerait sur les fonctions et ensuite plus tard sur la structure du cerveau.
Voilà, et les recherches sont loin d'être terminées, hein, puisque vous poursuivez toujours.
Vous
avez besoin de candidats ou pas? Vous cherchez des méditants? Vous avez largement ce qu'il vous faut.
Maintenant, on va commencer à faire des travaux avec des gens qui sont des novices.
Suivre aussi sur le long terme. Exactement. Pour voir comment ils évoluent.
Exactement. Mais il faut bien dire au public aussi que tout ça, c'est encore un champ de recherche très jeune. Donc les connaissances sont... on va dire, sont encourageantes, mais rien n'est définitif.
Merci à tous les trois, en tous les cas. Je renvoie les auditeurs d'abord vers ce livre, Les pouvoirs de l'esprit, transformer son cerveau, c'est possible, que vous signez Michel Levenkuyn aux éditions Flammarion. Et puis Marc de Smet, donc question de méditation, l'aventure incontournable, c'est le premier numéro, et c'est en librairie. Et puis Pour la science, donc
chez
notre partenaire.
Michel.
Voilà, et notre partenaire Pour la science est en kiosque avec un grand dossier, là aussi, les interviews de Mathieu Ricard et votre intervention, Antoine Lutz. Merci beaucoup à tous les trois. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour cher Mathieu Villard, de la tête au carré.
Ah mais oui, le thème, dans un instant, d'affaires sensibles, n'en faites pas trop quand même.
Les caricatures de Mahomet en 2005, c'est une histoire en résonance dramatique bien sûr, puisqu'elle nous renvoie aux événements bien sûr du 7 janvier dernier. Nous en parlerons avec notre invité Daniel Lecomte, producteur, réalisateur, journaliste. On lui doit le film « C'est dur d'être aimé par des cons » qui s'attache évidemment au procès des caricatures de Charlie Hebdo en 2007.
À tout à l'heure.